Accent d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour à tous. Nous évoquions hier dans Accent le renouveau de la communauté juive en Ukraine. Un renouveau alors que depuis jeudi, le pays commémore le massacre de Babi Yar, une des pires tragédies de ce que l'on appelle la Shoah par balle. Pendant deux jours, les 29 et 30 septembre 1941, les nazis ont exterminé 34 000 juifs, comme nous le rappelle Sébastien Gobert depuis Kiev.
Tous les juifs de Kiev doivent se présenter le 29 septembre à 8h du matin. Apportez vos documents, votre argent, vos effets personnels et des vêtements chauds. Cela faisait une semaine que les nazis occupaient la Kiev soviétique et déjà, ils placardaient cette annonce partout dans le centre-ville. Le 29 septembre 1941, des dizaines de milliers de juifs se présentent au lieu de convocation, sans se douter du sort qui leur est réservé. Ils sont conduits au ravin de Babi Yar, une zone rurale au nord de la ville. Là, les attendent des Sonderkommando, des unités SS et des milices de la police locale. Les civils sont exécutés méthodiquement par balles, leurs corps jetés au bas du ravin. Les 29 et 30 septembre, ce sont près de 34 000 juifs qui sont ainsi exterminés. Dans les semaines qui suivent, entre 100 000 et 150 000 personnes, juifs et non-juifs, subissent le même sort. Babi Yar est l'un des pires massacres de la tragédie de la Shoah, mais sa mémoire se perd. Le ravin est comblé par les nazis, les soviétiques ne cherchent pas à le rouvrir. Le premier mémorial apparaît dans les années 70, dédié aux victimes soviétiques des nazis. Un autre sera plus tard consacré aux victimes juives. Babi Yar en devient le symbole d'une histoire différenciée entre les communautés. Un travail d'envergure d'historiens et d'autorités locales vise depuis quelques années à réactiver la mémoire du massacre, notamment par la construction d'un musée mémorial. Mais Babi Yar reste à ce jour un parc agréable où les enfants courent sur l'herbe et les jeunes couples s'embrassent sur des bancs. Cette terre, gorgée de sang, reste emblématique de la difficulté que les Ukrainiens ont à aborder les pages tragiques de leur histoire.
Et là, on entend un extrait du chien à deux queues, le parti qui se révolte contre le référendum pour dire non aux réfugiés avec un plébiscite au bout. Et c'est ce que cherche d'ailleurs le gouvernement hongrois dimanche prochain. Depuis plusieurs mois déjà, le premier ministre populiste Viktor Orban multiplie les diatribes contre le plan européen de répartition des réfugiés dans les États membres. Le plan attribuerait 1500 demandeurs d'asile à la Hongrie. Budapest n'en veut pas et estime que l'Europe viole sa souveraineté. En préparation de ce référendum, le gouvernement a inondé le pays d'affiches hostiles aux migrants. Une propagande que taille donc en pièces avec humour le parti Le Chien à deux queues. Florence Labruyère a rencontré ses membres.
Comme tous les mardis soirs, l'ambiance est festive à la réunion du parti du chien à deux queues. Cela fait 10 ans que ce mouvement d'une cinquantaine de membres tourne en dérision la politique hongroise. Il y a quelques années, le parti a présenté aux élections des candidats chiens qui promettaient la vie éternelle et la bière gratuite à volonté. Et le parti a même trouvé le moyen de faire pousser de l'argent, comme l'explique Jolt Victora, l'un des dirigeants du parti.
Il y a deux choses très importantes. Déjà, la pauvreté. Il y a des plantes dans notre laboratoire secret. Et puis les plantes, ils donnent de l'argent. On va avoir beaucoup d'argent. Et deuxièmement, c'est les maladies. Alors, on va interdire les maladies parce que c'est pas bien pour la santé.
Une louche de parodie, une cuillère d'absurde et une bonne dose d'humour potache, voilà la pâtée idéologique du chien. Depuis un mois, l'animal parodie la campagne de haine massive contre les migrants lancée par le Premier ministre Viktor Orban. Le gouvernement a inondé le pays de grandes affiches bleues avec des slogans du style « Le saviez-vous ? Depuis le début de la crise migratoire, les violences contre les femmes ont beaucoup augmenté. » Le chien, lui, réplique « Le saviez-vous ? Depuis le début de la crise migratoire, il y a plus d'affiches bleues que de migrants dans ce pays. Rien de tel que l'humour contre la xénophobie, estime Jolt Victora. »
Quand on circule dans le pays, on voit des affiches « Fais attention, il y a des migrants qui viennent ici, qui vont prendre ta femme. » C'est pas gentil du tout et nous, on veut pas voir ça. Nous, on travaille contre la haine. Alors on dit « La vie est belle ». Nous, notre but, c'est de toucher des gens qui veulent pas aller voter, des jeunes surtout. Le premier parti en Hongrie, quand même, c'est le parti des gens qui veulent pas voter, qui votent pas. On veut qu'il entre dans le cirque de la démocratie. Si on ne vote pas, on ne peut pas dire que ce n'est pas bon ce qui se passe autour de nous.
C'est la première fois que Julia vient à une réunion du parti. Cette informaticienne veut participer au collage des affiches dans la rue.
Je suis venue parce que c'est vraiment pénible de se sentir impuissant face à cette haine qui se déverse partout. J'ai besoin de faire quelque chose pour me calmer un peu. Je n'avais jamais fait de politique avant, j'allais voter, c'est tout. Mais là, quelque chose s'est cassé en moi, je n'en peux plus. Je ne supporte plus la haine, la dictature, le lavage de cerveau. D'ailleurs, tout ça, ça va ensemble.
Très populaire chez les jeunes, le parti satirique a plus de 200 000 amis sur les réseaux sociaux. Mais dans les quartiers excentrés de Budapest, beaucoup de Hongrois ignorent son existence ou s'interrogent sur sa capacité à influencer les choses.
Je m'appelle Zsolt, je suis ouvrier pâtissier. Là, il y a une affiche du chien qui dit « À question stupide, réponse stupide ». Je suis tout à fait d'accord, mais... Je ne crois pas qu'ils vont réussir à influencer les gens. J'aime bien leur humour, mais comme à mon avis le référendum est absurde et inutile, ce que fait le chien, c'est tout aussi inutile.
Matteo Ross a 25 ans, il est plombier.
J'aime bien leurs affiches, elles sont drôles, c'est marrant, mais bon, c'est un peu des bêtises aussi. Ils ne se prennent pas au sérieux, c'est pas comme les autres partis.
Le chien conseille de mettre un bulletin invalide dans l'urne, c'est ce que vous allez faire ?
Ah non, non, je vais pas voter blanc, j'irai voter, c'est sûr, mais je vous dirai pas pour qui, ça c'est personnel.
Pour le politologue Csaba Tóth, l'émergence du parti satirique est un signe du malaise qui sévit en Hongrie.
Le chien à deux queues n'est que le symptôme d'une crise politique en Hongrie. Si l'opposition réussissait à offrir une vraie alternative, il n'y aurait pas d'espace pour ce parti. Mais comme l'opposition n'arrive pas à produire un message enthousiaste qui mobilise les Hongrois, c'est un mouvement comme le chien qui occupe la place et il le fait très bien.
Si le chien incite les électeurs à voter nul, c'est pour faire baisser le taux de participation et rendre le référendum invalide. En un mois, le nombre des électeurs prêts à voter nul est passé de 1 à 11%. Rien ne dit qu'ils se déplaceront le jour du scrutin, mais l'humour du chien aura fait oublier, pour un temps, la xénophobie ambiante.
Autre scrutin dans deux jours en Bosnie, des municipales qui n'enthousiasment pas les foules. Alors comment relancer l'intérêt des citoyens pour des élections quand ces derniers s'entêtent à bouder les bureaux de vote en proposant par exemple des candidats atypiques, voire franchement farfelus, Simon Rico.
À Sarajevo, les électeurs de l'arrondissement de la vieille ville font face à un dilemme cornélien. Ils doivent choisir entre élire la liste du Front démocratique, où figure le kickboxer Denis Stojnic, ou celle du parti bosniaque de l'Action démocratique, qui présente le jeune chanteur Tarik Mulaomerovic, ancien candidat du télécrochet X-Factor Adriatique. À Ilidja, dans le secteur ouest de la capitale bosnienne, un autre kickboxer est en lice, Djevad Poturak, surnommé « la machine de Bosnie-Herzégovine ». Le cogneur porte les couleurs du parti de Farudin Radončić, le Silvio Berlusconi bosnien. La banlieue de Sarajevo n'est pas en reste. Jasmin Fazlić, ancien représentant de la Bosnie à l'Eurovision, y est candidat, lui aussi sur la liste du parti nationaliste bosniaque. Mais il n'y a pas qu'à Sarajevo que les partis politiques font appel à des sportifs ou à des vedettes pour les représenter. Ces pratiques sont devenues monnaie courante en Bosnie-Herzégovine, tout simplement parce que ces célébrités sont un moyen d'attirer les électeurs en capitalisant à moindre frais sur leur nom et leur succès médiatique. Sur les réseaux sociaux, les Bosniens s'amusent de certains candidats au profil farfelu et dépourvus de toute expérience politique, mais ils s'agacent aussi de constater que plusieurs criminels de guerre condamnés par la justice aient pu poser leur candidature en toute légalité. Le cas emblématique est celui de Fikret Abdić, qui se présente à Velika Kladuša dans l'ouest de la Bosnie-Herzégovine. Condamné pour la mort de 121 civils pendant la guerre, le septuagénaire a purgé 10 années de prison en Croatie. Très connu localement, l'ancien homme d'affaires du temps de la Yougoslavie est même donné favori. 20 ans après la fin du conflit qui a fait plus de 100 000 morts, les Bosniens n'en ont décidément pas fini avec les démons du passé.
C'est l'une des villes à la mode en Europe comme Berlin, Barcelone ou encore Amsterdam. Les touristes affluent à Lisbonne, plus 20% ces deux dernières années. mais la cohabitation avec les riverains devient de plus en plus tendue. Les habitants n'en peuvent plus du bruit à des heures tardives et des saletés qui jonchent les rues de la capitale portugaise. Alors des collectifs s'organisent, comme Lisbonne Does Not Love, Lisbonne au bord de la crise de nerfs. C'est un reportage de Marilyn Darcy.
Dans le centre de Lisbonne, on se bouscule pour admirer le Tage entre deux maisons blanches ou pour prendre le fameux tram 28. Les touristes en raffolent. Mais voilà, les dérives sont nombreuses. Nicolas, un jeune Français de la capitale, a créé avec des amis le site Lisbon Does Not Love pour dénoncer le tourisme néfaste. Nicolas.
C'est vraiment le bon sens qui nous a dicté ça. C'est que c'est tout simplement c'est des choses bruyantes. Par exemple, tous les petits triporteurs qu'on appelle les tuk-tuk avec des petits moteurs à essence qui sont extrêmement bruyants aussi parce qu'à Lisbonne, il n'y a que des montées-descentes. Donc forcément, ça pousse un peu les moteurs. C'est aussi très polluant. Ensuite, c'est par exemple les Segway, c'est ces petits engins avec deux roues où on circule sans se fatiguer dans toutes les rues et qui entrent dans toutes les petites rues. Alors comme dans les vieux quartiers, on a des ruelles parfois qui font dans les 1m50 de large, forcément ça oblige tous les locaux, les vieilles personnes à se pousser pour les laisser passer. Donc voilà, c'est une nuisance toute simple mais qui en fait a un gros impact sur la vie au quotidien.
L'objectif est surtout de proposer des solutions. Nicolas.
Ce qu'on fait, c'est de montrer à la fois quel est le désavantage pour les touristes à plonger dans tous ces pièges à touristes qu'on leur propose quand ils arrivent, aussi de leur montrer quelles sont les conséquences négatives pour les locaux. Et puis, on entend un petit tuk-tuk là à proximité. Et puis surtout de leur proposer une solution, même si c'est des solutions qui paraissent absolument évidentes, vous n'avez qu'à aller voir sur le site. C'est bien de les rappeler parce qu'il y a beaucoup de sites qui font que critiquer, mais il est bien de montrer simplement. Ce sont des solutions simples qui sont valides pas uniquement pour Lisbonne, en fait, elles sont valides pour la plupart des villes qu'on visite. En fait, c'est une vision du tourisme en quelque sorte. Ouais.
La cage de Sodré, toujours au cœur de Lisbonne, c'est la vie nocturne qui pose des problèmes. Jeunes des banlieues et touristes viennent faire la fête. Isabella Sada Bander, habitante du quartier, dit son exaspération.
Il y a beaucoup de jeunes qui viennent dans le quartier et les touristes les suivent. Je crois que s'ils ne voyaient pas tous ces jeunes uriner dans la rue ou faire le bazar, ils ne les imiteraient pas, car j'en suis sûre, ils ne font pas ça chez eux. Ici, il y a une grande concentration de bars et de restaurants. Mais ils sont petits, alors tout se passe dans la rue. Mais autant de gens en train de boire sur le trottoir, c'est bruyant.
Isabella a créé le collectif Des gens vivent ici pour relever toutes ces nuisances chaque fois plus importantes. Si elle n'a rien contre le tourisme en soi, elle s'oppose en revanche à l'idée du tout est permis au détriment de la qualité de vie des riverains.
Lisbonne, c'est vraiment une petite ville. Elle ne peut pas supporter autant de monde. On sature. C'est très bien s'il y a des touristes. On a besoin de monde. Lisbonne a pu être ainsi restaurée et on a créé une nouvelle dynamique. Mais il faut des limites. Ça ne peut pas être du n'importe quoi.
Dans l'hypercentre de Lisbonne, l'afflux des touristes s'accompagne de son lot de déchets. Dans l'arrondissement de la Miséricorde, très touristique, deux quartiers récoltent désormais à eux seuls autant de détritus que tout l'arrondissement de six quartiers, comme l'explique Carla Madeira, la maire de l'arrondissement.
L'été, dans les seuls quartiers de Bica et Bairro Alto, on ramasse jusqu'à 10 tonnes de déchets par jour. On est très permissif et on laisse les gens boire dans la rue. Et tous ces excès augmentent les dépenses de la mairie. Les déchets augmentent, mais pas nos finances. On ne sait plus comment faire face.
En un an et demi, un millier de personnes ont quitté le quartier et laissé leur logement aux touristes. Lorsque l'on sait que les fonds publics sont attribués au nombre de résidents, on comprend l'inquiétude de l'élu. Carla Madère prône la recherche de l'équilibre.
On devient une destination d'enterrement de vie de garçon. L'idée qui prévaut, c'est qu'ici, on peut boire dans la rue, le climat est super, les gens peuvent passer toute la nuit dehors et que tout est permis. On accueille les touristes à bras ouverts, mais nous voulons être respectés et franchement, c'est pas ce que l'on voit.
Limiter l'heure de consommation d'alcool dans la rue la nuit, imposer des quotas pour le logement touristique, quelques-unes des batailles de Carla Madère et deux autres maires d'arrondissement de Lisbonne. Les habitants s'organisent, créent des collectifs comme ceux d'Isabella. Mais n'est-il pas un peu tard, Nicolas de Lisbonne Does Not Love?
Moi je trouve que non, parce que Lisbonne en fait c'est une ville où le tourisme débute en quelque sorte. Il débute subitement, assez massivement on va dire, mais il est encore temps clairement pour faire des choses. D'ailleurs, il faut laisser aussi une marge à la mairie. C'est qu'on comprend que soudainement, eux aussi, ils ont subi un petit peu l'assaut de la masse des touristes. C'est tous les vols low cost qui viennent déverser tout leur charter comme ça tous les mois. Et la mairie, on imagine qu'eux aussi, ils ont un petit peu de mal à gérer, à canaliser en fait toute cette masse de tourisme. Donc c'est normal qu'il y ait peut-être un temps d'adaptation en fait de la ville. Mais en fait, là, ça commence à tarder. C'est aussi pour ça qu'avec ce type de site, on n'éveille pas seulement l'intérêt des touristes, mais aussi des autorités locales. L'objectif, c'est de leur montrer qu'il faut faire attention parce que la ville peut évoluer très rapidement de manière négative et justement tuer la poule aux œufs d'or, parce qu'assez rapidement on peut donner une image de la ville qui n'est pas du tout l'image authentique à laquelle on s'attend.
Le maire de Lisbonne, Fernando Medina, trouve lui qu'il n'y a pas trop de touristes. Il prévoit même de nouvelles infrastructures et un aéroport plus grand pour les recevoir. Les charters vont se bousculer à Lisbonne.
This is the kind of record I have always wanted to make available.
Et avec nous, on retrouve Vincent Théval. Bonjour Vincent.
Bonjour Catherine.
Alors, vous avez choisi ce vendredi de nous parler du nouvel album d'une artiste qui aime à brouiller les pistes.
Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. El Perro del Mar, c'est le nom de scène en forme de faux ami que s'est choisi la Suédoise Sarah Asbring il y a une douzaine d'années pour publier ses chansons pop délicates aux accents volontiers électroniques. Le cinquième album d'El Perro del Mar paraît cet automne après 4 années d'une relative discrétion liée à un heureux événements qui a largement occupé la vie de Sarah Asbring et l'a aussi amené à aborder des thèmes plus politiques ou environnementaux, une ouverture au monde qui trouve sa parfaite traduction musicale au fil d'un disque influencé par les musiques pop et traditionnelles de Chine, du Japon, d'Éthiopie ou de Sumatra. C'est un vent de liberté vivifiant qui souffle sur les chansons d'El Perro del Mar, une légèreté qui séduit notamment sur le morceau que je vous propose au titre un peu incongru, Kunyaman, ouais, comme la pâtisserie bretonne avec juste ce qu'il faut de sucre.
Le titre quelque peu trompeur de la Suédoise au nom tout aussi trompeur, El Perro del Mar. À la réalisation, il y avait Françoise Grelot. Vous pouvez évidemment nous retrouver sur RFI.fr et sur Facebook. Ne zappez pas dans quelques instants les infos.